France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier sur l'aide publique au développement, objet d'attaques sévères aux États-Unis, mais aussi en France, où l'Agence française de développement est la cible à abattre pour l'extrême droite française. Et puis pour le débat, nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur la rencontre ahurissante entre Zelensky et Trump hier à la Maison-Blanche. Le président ukrainien a-t-il été humilié? A-t-il au contraire montré au monde entier son courage? Et nous, les Européens, sommes-nous désormais seuls face à Poutine? L'ancien ambassadeur de France en Russie entre 2020 et 2024, Pierre Lévy, et l'historien Stéphane Audouard Rouzeau seront avec nous. Mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Allez, on commence par une information de la semaine. Les propos de Julien Bayou, l'ancien secrétaire national du parti Les Écologistes, étaient cette semaine sur France Inter.
Moi, ce qui me chagrine, c'est de voir un parti, Les Écologistes, j'ai le plus grand respect pour les militants écologistes, évidemment, mais de voir un parti, Les Écologistes, qui est sous l'emprise, finalement, de Sandrine Rousseau, qui accuse, qui, quand elle accuse, elle dit... Ben, j'attends en fait qu'il y ait une enquête privée. Quand il y a une enquête privée, elle dit non, j'attends la justice. Et quand la justice dit enfin, il est blanchi, elle dit ça ne me va pas. C'est pour ça que moi j'aspire à ce que je puisse tourner la page. Mais je pense qu'il y a un précédent à refuser. C'est tout simplement absolument dangereux. Quand la réalité contredit Sandrine Rousseau, c'est la réalité qui a tort.
Natacha, des propos puissants de Julien Bayou qui pose la question de la présomption d'innocence et qui ouvre aussi une crise politique chez les écologistes. Sur quoi préférez-vous partir, vous ?
Je pense qu'il faut d'abord poser la question du cas Julien Bayou et de ce qu'il nous raconte. Et ensuite, on parle du parti dans la mesure où il y a beaucoup de choses à en dire et où cet élément est un des éléments qui nous raconte où en est ce parti politique.
Il cible le parti. Là.
Mais de fait, il faut rappeler un petit peu les faits, c'est-à-dire que l'affaire qui le concernait a été classée sans suite. C'était deux plaintes pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Et c'est une histoire qui est tout de même un petit peu interminable. On rappelle qu'elle avait commencé par des accusations de Sandrine Rousseau au micro de C'est à vous, où Sandrine Rousseau parlait de comportements, je cite, « de nature à briser la santé morale des femmes ». Ce qui est quand même d'un flou absolu. Ça nécessiterait que chaque mot soit défini, ce qui n'a pas été fait. Et derrière cela, il y a eu une forme d'acharnement. Alors, les mauvais esprits ont ironisé sur l'arroseur arrosé dans la mesure où tous, chez les écologistes, ont soutenu ce slogan devenu tout de même un petit peu problématique, « Victime, on vous croit », parce que « Femme, on vous écoute », c'est absolument nécessaire. « Victime, on vous croit », ça dit autre chose. Donc on a bien vu comment cette affaire est caractéristique d'un emballement et Julien Bayou, de ce point de vue-là, a l'intelligence de dire aujourd'hui « Attention, ça ne doit surtout pas remettre en cause la révolution qu'est MeToo ». Et il a raison de préciser cela parce que c'est ce qui risque, hélas, de se passer. Mais la responsabilité des instances des Verts et d'un personnage comme Sandrine Rousseau et de l'espèce de bulle médiatique qu'elle constitue me semble devoir être explorée. Ça, c'est pour la question de MeToo. Mais derrière, il y a tout ce que ça nous raconte des problématiques d'un parti qui a décidément beaucoup de mal à sortir de ses maladies infantiles.
Gilles, maladies infantiles, effectivement vous avez raison de rappeler que Julien Bayou a été cette semaine innocenté par la justice pour les plaintes de harcèlement moral et d'abus de faiblesse.
Vous dites ça comme une évidence, or quand on regarde le débat, ce n'est pas le cas. Si je reprends à mon tour la chronologie, ça permet de mesurer l'ampleur du désastre, parce qu'il y a eu l'origine qu'a rappelé Natacha. Dans un premier temps, il y a eu une enquête interne de la cellule du parti contre les violences sexistes et sexuelles, qui, au bout de 7 mois, ont entendu Julien Bayou pour lui dire qu'il n'y avait pas eu d'enquête parce que personne ne s'était plaint. Il y a eu, dans un deuxième temps, une enquête externe, confiée à un cabinet indépendant dont il faut mesurer le caractère inhabituel parce qu'ils n'ont pas enquêté sur des faits, mais ils ont enquêté sur une personne. Et pour ce faire, pour savoir si quelqu'un voulait se plaindre, ils ont envoyé aux 12 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts un questionnaire pour arriver à la conclusion que aucun fait contraire ni à la loi ni aux règles internes des Verts avait été constaté. Dans un troisième temps, la justice, une procédure judiciaire au terme de laquelle le procureur classe sans suite, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de faire un procès, mais il ne le fait pas en disant, comme ça se fait généralement, que l'infraction est insuffisamment caractérisée, mais parce qu'il y a absence d'infraction. J'ai eu une avocate spécialiste de ces questions qui me dit qu'en 25 ans, jamais elle n'a vu de classement sans suite pour absence d'infraction. Au terme de ces trois étapes, la réaction attendue eût été des excuses auprès de Julien Bayou, un courrier à l'ensemble des adhérents qui avaient été saisis et peut-être même une procédure interne d'évaluation pour comprendre de tels dysfonctionnements. Or, quelles ont été les réactions constatées? Et c'est là où on en vient à la question de Sandrine Rousseau et à la question politique. Il y a eu, disons, des hésitations de Marine Tondelier. Mais le point intéressant, c'est Sandrine Rousseau qui a publié un long texte sur Blue Sky. Intéressant parce que c'est elle qui est la plus charpentée. Et elle dit qu'il devrait y avoir des excuses. Mais pour les femmes qui n'ont pas été écoutées. Et que Julien Bayou, après ce classement sans suite, est présumé innocent. Et c'est là où on voit, je crois, deux problèmes absolument centraux. D'abord, une impasse juridique. Après toute cette procédure, et notamment le classement, Julien Bayou n'est plus accusé de rien. Et donc, si malgré tout il n'est que présumé innocent, ça veut dire que l'innocence est impossible. Et ce que vous présentiez comme une évidence est en fait une impossibilité.
Et que tout le monde est présumé...
qu'il y a une présomption de culpabilité.
Mais pour tout le monde, oui.
Non, pour les hommes.
Voilà.
Pardon, mais c'est là le problème.
Et j'en au deuxième point qui est l'enfermement idéologique. C'est-à-dire une situation où vous avez une grille de lecture de la société qui devient imperméable au réel. Et ça m'a fait penser à une grande affaire qui a défrayé la chronique politico-judiciaire dans les années 70, qui est l'affaire de Bruet en Artois. Au début des années 70, vous avez une adolescente, fille de mineur, élément très important, qui est assassinée. Le notaire, dont la voiture était mal garée, qui avait un trou dans son emploi du temps, est inculpé par le juge Pascal. L'affaire, à ce moment-là, devient une affaire politique et idéologique dont se saisissent les maoïstes. La cause du peuple, leur journal, publie un grand article dont le titre est « Maintenant, ils massacrent nos enfants, il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça ». Et c'est là où c'est intéressant parce que on voit que le notaire est coupable parce qu'il est notaire, de la même manière que Julien Bayou ne peut être innocent parce qu'il est un homme. Le point positif, c'est que ce dérapage des Mao a provoqué un schisme à l'intérieur de ce mouvement, un débat extrêmement profond. Eh bien, il faut espérer que ce soit la même chose chez les écologistes après cette affaire.
Passionnant rappel historique. Merci Gilles. Natacha.
Mais en effet, le problème est que ça ne suscite pas tant de débats que cela. On voit que pour l'instant, Marine Tondelier est totalement tétanisée, et ce, depuis le début de cette affaire. C'est cela qui en fait est le plus inquiétant. Marine Tondelier, mais aussi, et j'y insiste, les médias. C'est-à-dire qu'il a fallu tout de même un temps infini pour que les commentateurs osent dire qu'il y avait un problème énorme avec cette affaire, alors même que le problème était patent. Et pourquoi a-t-il fallu autant de temps? Tout simplement parce qu'il y a, en effet, une pression idéologique. Parce qu'il y a une sorte d'accusation préalable qui est « vous êtes complice des violeurs » puisqu'il y a un continuum entre toutes les formes d'agression sexiste et sexuelle. C'est cette idéologie-là qu'on voit transparaître. Or, pour l'instant, le communiqué du Parti écologiste regrette les souffrances de toutes les personnes concernées et les conséquences négatives sur la vie de Julien Bayou. Et derrière, il y a cette incapacité justement à mettre en œuvre une vision autre de ce que devraient être les arbitrages politiques, et ça rejoint les Alors on sent qu'il y a des tentatives, on a bien vu Éric Piolle venir contester légèrement le leadership de Marine Tondelier. Sur d'autres thèmes, il ne s'aventure absolument pas sur cette question-là, puisqu'en fait, Sandrine Rousseau s'est construit une figure un peu intouchable, avec cette espèce d'injonction à la pureté permanente qui permet de tenir les autres.
Mais justement, un peu de politique, Gilles, vous avez considéré que c'était une attaque presque idéologique qui dépassait le cadre politique, c'était un homme qu'on attaquait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on ne peut pas aussi y voir une sorte de règlement de compte politique à l'intérieur même d'un parti politique qui a trouvé ici un moyen d'agir ?
Alors, c'est possible, tous les partis connaissent ça, et les Verts en particulier, mais je trouve si clivage il y a, je crois moins à un clivage, enfin, ou pas seulement à un clivage tactique ou politique à l'intérieur des Verts, que un clivage à l'intérieur du combat féministe. Et c'est ce débat-là, je crois, qu'il faut avoir.
Le grand face-à-face, le duel.
Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine ? Protection de la source du fleuve Qiangjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan. 65 millions d'euros. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. 30 000 euros. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. En tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux.
Contribuable française, mais aussi et peut-être surtout eurodéputée reconquête, Sarah Aknafo, le parti d'Éric Zemmour qui était sur le plateau de CNews, on l'a entendu. Elle prend pour cible l'Agence française de développement, un peu dans l'esprit de ce qui se passe aux États-Unis, hein, où Donald Trump a d'un trait de stylo quasiment mis un terme à l'USAID. La campagne de Sarah Aknafo, je dis campagne, elle s'est prolongée sur les médias, et notamment les médias du groupe Bolloré. On a vu du JDD, sur CNews, comme on vient de l'entendre, aussi sur Europe 1. Comment entendre ce qui se passe là, Gilles ? Comment répondre à une telle attaque de Sarah Aknafo ?
Je trouve que tout cela est formidablement révélateur d'une époque et c'est à ce titre que c'est intéressant. Et que d'abord, il faut, je crois, essayer de démonter la mécanique de cette polémique. Et si on en fait l'anatomie, on voit les différentes étapes. D'abord, il faut hurler au scandale, et avec un chiffre important. Donc là, c'est 15 milliards d'euros, qui effectivement est un chiffre très important. Ensuite, et on l'a vu dans cet extrait, focaliser, c'est-à-dire prendre une partie pour le tout, avec des illustrations. Alors, de fait, il y a dans les intitulés des actions de l'AFD du jargonnage, comme il y en a, je vais vous le dire, dans le programme d'activité de la Fondation Jean Jaurès ou de n'importe quel soutien aux associations d'une collectivité locale. L'important, c'est qu'est-ce qu'elle fait réellement. Et donc, on prend des thèmes qui parlent, hein, le genre, le climat, des pays, la Chine, l'Albanie, l'Algérie.
Gaza.
Troisième étape, il faut déformer avec des confusions. Et ça, c'est très intéressant. Confusion sur les chiffres. 15 milliards, je vous le disais, c'est le budget de l'aide publique au développement, le budget de l'État français, dans lequel il y a 6 milliards d'aides de dons et dans lesquels il y a 2 milliards pour l'Agence française de développement. Donc déjà, on confond les chiffres. Ensuite, on confond dans l'action de l'Agence française du développement, qui est une banque, on confond les dons et les prêts. Très bien. Et puis, quatrième étape, il faut amplifier ça avec un plan média extrêmement bien huilé, puisque ça a été lancé par Sarah Aknafo sur CNews. Ça a été développé sur 6 pages avec la une du journal du dimanche. Scandale, 15 milliards engloutis, les délires que financent vos impôts,
le JDD, propriété de Vincent Bolloré.
Et tout ça est de la belle ouvrage quand on démonte la mécanique. Et
puis, un plan média.
Derrière, il faut, je vais aller plus vite, débusquer, je crois, l'idéologie qu'il y a derrière la polémique. Et je dirais que c'est une idéologie de patriote en peau de lapin. parce que leur seule ambition, en réalité, est le repli national C'est le traditionnel la Corrèze plutôt que le Zambèze, et donc la mise en cause de tout ce qui contribue au soft power de la France. Parce qu'il y a une continuité entre les attaques contre l'accueil des étudiants étrangers, les instituts culturels français à l'étranger, le soutien à la francophonie et l'aide publique au développement. Et c'est un sujet qui devrait, je crois, nous rassembler et qui nous a rassemblés jusqu'il n'y a pas si longtemps, puisque une loi a été votée à l'unanimité sur l'aide publique au développement en 2021, et c'est un sujet qui, aujourd'hui, nous divise.
La Corrèze plutôt que le Zambèze, pour les étudiants qui nous écoutent, c'est le quartiérisme dans les années 1950. Natacha, est-ce que c'est le signe d'une trumpisation de nos débats en France, ou bien le signe d'une attaque contre une attaque très très bien guidée médiatiquement notamment et politiquement contre tout ce qui est l'État finalement aujourd'hui?
Alors, déjà, je me méfierais du terme trumpisation qu'on utilise un peu de toutes les manières, dans le sens où je pense que nous constatons un phénomène dans l'ensemble des pays développés. Il se trouve que Trump lui donne une visibilité beaucoup plus forte, mais en fait, je ne pense pas que en Europe, on ait attendu Donald Trump pour avoir des débats et des polémiques sur ce genre de sujet. Mais il se trouve que là, il y a une attaque coordonnée, puisque en effet, Elon Musk a qualifié de « nid vipère » l'USAID en sabrant 90% des budgets, ce qui a des conséquences directes, parce que cela signifie que derrière, il y a des programmes de lutte contre des épidémies qui vont s'arrêter en Afrique, contre le sida, contre Ebola, contre les tuberculoses résistantes. C'est tout ce genre de choses très concrètes qui est touché. Mais il n'est pas le seul, justement. Le 25 février, Keir Starmer a annoncé que la Grande-Bretagne passait de 0,5 à 0,3% du PIB pour l'aide au développement. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une baisse conséquente. Donc on voit que ce phénomène-là arrive partout. Et c'est pour ça qu'il faudrait essayer de s'extraire du piège polémique que nous voyons là, puisqu'en effet, Sarah Knafo instrumentalise ça et en fait un combat qui lui permet de s'offrir une visibilité. Essayons de réfléchir posément au problème. Pourquoi ? Parce que de fait, la Cour des comptes plusieurs fois a pointer du doigt certaines aides qui n'étaient pas transparentes. Or, je pense que justement pour rendre efficace l'aide au développement, il faudrait au contraire être extrêmement transparent, être extrêmement clair sur l'endroit où va l'argent, bien expliquer aux Français en effet les différences entre les prêts et les dons. Sur les prêts, on a vu la réponse du directeur général qui consistait à dire « mais ça, en fait, ça crée 3 milliards de contrats pour des entreprises françaises ». C'est vrai. Il faut préciser qu'en revanche, il y a des endroits comme par exemple, si on cite la Chine, ça crée évidemment des contrats pour les entreprises françaises, mais il est interdit de conditionner les prêts à l'appel à des entreprises françaises. Donc il y a évidemment des marchés où les entreprises françaises n'ont pas accès. Donc il faudrait être extrêmement clair sur tout ça. Et accessoirement, ce qui apparaît, c'est surtout la multiplication des sources. C'est-à-dire que vous avez des budgets, des conseils régionaux, par exemple, qui vont vers des associations à tel endroit. Vous avez l'État. Je pense qu'on gagnerait à rationaliser tout ça. Je ne suis pas certaine qu'un conseil régional ait vraiment vocation à financer telle ou telle association. Je préférerais que l'État reprenne ça en main et que ce soit un petit peu plus pensé.
Est-ce que, Gilles, vous considérez que Sarah Knafo, malgré ses excès, a eu le mérite d'ouvrir un débat sur le fond de l'AFD ? L'émetteur rend impossible le débat ? Enfin, c'est une question fondamentale, ça.
Alors, je ne pense pas qu'elle ait eu ce mérite-là, mais il faut en profiter pour transformer ça de manière positive.
C'est la meilleure réponse, vous pensez ?
Quand Natacha dit qu'il faudrait que l'État reprenne ça, pendant longtemps, en fait, il n'y avait pas d'agence française du développement, mais il y avait seulement un ministère de la coopération. La grande différence et le grand intérêt d'agence de ce type, c'est que là où vous avez 1 milliard qui est mis par l'agence, c'est que elle lève sur les marchés 6 milliards supplémentaires et elle crée des financements complémentaires par des partenariats pour 6 milliards supplémentaires. Donc il y a un effet de levier pour le développement qui est absolument considérable. Et je crois qu'on est sur un sujet dans lequel nos valeurs et nos intérêts convergent largement et qu'il ne faudrait pas en faire moins, mais qu'en faire plus. Et que si scandale il y a, et c'est intéressant, c'est l'ampleur de la baisse de l'enveloppe de l'aide au développement dans le budget de 2025. Je crois qu'il n'y a pas de poste budgétaire qui ait davantage baissé cette année que l'aide, que la partie don de l'aide publique au développement, au moment où les États-Unis, et on va voir les conséquences quand on va parler de la Syrie, coupent encore davantage. Et si nécessité il y a, c'est de penser le développement de demain dans un monde dans lequel les BRICS ont un poids qu'ils n'avaient pas, dans lequel le climat est un défi qui n'existait pas, et donc de voir comment cette nouvelle coopération peut s'opérer. Et l'ironie de l'histoire, c'est que c'est précisément cette réflexion-là qui a eu lieu cette semaine au Cap, de mercredi Absolument. À vendredi, avec une coalition qui pèse 2500 milliards de dollars et qui réunit 530 banques
de développement,
dont l'Agence française de développement.
Le grand face-à-face, le duel.
Dans le mot terrorisme, il y a le mot terreur. Donc la terreur, c'est à la fois la racine du mot, c'est aussi le mode opératoire, et c'est enfin l'effet final recherché.
Donc vous ne vouliez pas être le porte-voix.
Ce que veulent les terroristes, c'est que nous ayons collectivement peur. Ce qu'adoreraient les terroristes, c'est que je vienne raconter par le détail leur sadisme, de façon à ce que chacun de vos auditeurs, dans sa salle de bain, dans sa voiture, ce matin, soit
glacé
d'effroi.
Nicolas Hénin, ancien otage de Daesh en Syrie, à l'occasion du procès de ses geôliers, les geôliers de l'État islamique, qui s'est ouvert à Paris. Il est en compagnie de Pierre Thorez, de Didier François et d'Edouard Elias. Gilles.
Oui, il faut se forcer à lire dans le détail le compte-rendu de ces procès.
Et c'est éprouvant.
Et c'est éprouvant, mais je crois que c'est instructif. Et c'est instructif sur le terrorisme en général, et c'est instructif sur la situation au-delà de la situation en Syrie aujourd'hui. On est dans une période de transition. Après la chute de Bachar, il y a eu la dissolution du parti Baas, la dissolution de l'armée de Bachar, l'élection, il y a quelques jours, du président par intérim Al-Sharia qui avait mené la chute de Bachar. Depuis, une action extérieure pour aider la Syrie, avec encore cette semaine un voyage en Jordanie après l'Arabie Saoudite et la Turquie, et une action intérieure pour réconcilier le pays. Ça a été la réunion très importante cette semaine de la conférence du dialogue national dans un lieu symbolique, le palais, l'ancien palais de Bachar, avec 900 représentants de la société civile. Pour l'instant, la transition est une transition positive. C'est-à-dire que le scénario est très différent de celui du retour des talibans en Afghanistan. Et la question, je crois, qui nous est posée, c'est qu'est-ce que l'on fait dans et pendant cette période de transition. Et je crois qu'il y a un double mouvement. Il faut être vigilant, c'est-à-dire veiller que cette transition respecte la mosaïque syrienne, que la réunion à laquelle je faisais allusion soit un début et pas une fin, que la place des femmes soit assurée aussi, ainsi que celle des Kurdes. Et on voit que c'est un sujet qui est compliqué dans le contexte, par ailleurs, plus général avec les déclarations d'Öcalan, puisque dans cette conférence du dialogue national, il y avait des Kurdes, il n'y avait pas tous les Kurdes. On sait que la Turquie ne va pas être aidante, donc il faut être vigilant. Et dans le même temps, il faut, je crois que notre intérêt pour la stabilisation du pays est d'être aidant. Et l'Union européenne, qui a ouvert la voie à un recul des sanctions par rapport à la Syrie, je crois, a raison contre les États-Unis, qui sont moins allants et qui, dans le même temps, on l'évoquait dans le débat précédent, ont réduit les aides du Assad. C'est un drame pour la Syrie, parce que 25% des aides pour la Syrie venaient des États-Unis. Et donc, je crois qu'il faut plutôt aller plus vite que plus lentement.
Semaine incroyable, hein, où la question de la pacification se joue en Syrie, mais aussi à Paris, pendant un procès. On sent bien que ce passé remonte à la surface et qu'il est difficile à surmonter pour la question nationale syrienne.
Mais ça va être extrêmement complexe parce qu'on est, en effet, comme le disait Gilles, sur le fil du rasoir. C'est-à-dire là, je prends un exemple. Il y a eu, en effet, cette conférence pour le dialogue national qui est un événement extrêmement important. Il faut bien comprendre, c'est des chercheurs, des artistes. C'est l'émergence de la société civile face au nouveau gouvernement, et c'est le nouveau gouvernement qui demande à cette société civile syrienne de s'exprimer. Le nouveau chef de la Syrie, Al-Shara, a annoncé pour le 1er mars, normalement, un cabinet plus inclusif que celui qu'il avait pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, il gouverne le pays avec ses proches, ceux qui étaient avec lui dans son gouvernement provisoire. Tout l'enjeu va être de savoir s'il ouvre au reste de la société syrienne et si finalement cette conférence, c'est une conférence qui ouvre vers des éléments positifs, c'est-à-dire qu'il y a eu des recommandations. Est-ce que ces recommandations vont donner lieu à une inflexion ou est-ce que c'est finalement la fin de quelque chose. On a donné la parole à la société civile. Très bien, on va pouvoir maintenant faire ce qu'on veut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question des Kurdes, en effet, est centrale, même si les protestations donc des forces démocratiques syriennes de la région autonome kurde qui a estimé qu'elles n'étaient pas tenues puisqu'elles n'avaient pas été invitées. On peut débattre de cette question-là. C'était justement la société civile, ce n'était pas des forces politiques et militaires qui étaient invités. Donc il n'y a pas lieu de considérer que les Kurdes ont été écartés. Je pense que c'est extrêmement important. En revanche, il va falloir voir comment, dans la suite, ils sont réellement intégrés. Et dernier point, les incursions d'Israël sur le territoire syrien risquent de déstabiliser ce processus. Et là, en effet, c'est l'action de la communauté internationale, même si ce mot, hélas, recouvre une réalité bien faible. Ça veut dire, en fait, est-ce que les États-Unis et les Européens vont réussir à un moment donné à faire en sorte que Benjamin Netanyahou ne déstabilise pas l'ensemble de la région ?
Gilles ?
Oui, un mot. Il y a le processus politique qu'évoquait Natacha et qui, en réalité, est la marche qui doit se faire et qui doit se faire aussi vite qu'il est possible vers une constitution, vers un référendum. Mais il y a deux autres enjeux, peut-être encore plus aigus. Le premier, c'est de sortir la Syrie de la pauvreté. Et il y a une extrême urgence. Les Syriens, là, sont rattrapés par le réel. 80% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le salaire des fonctionnaires n'a pas été payé depuis 3 mois. Les fluctuations de la monnaie sont absolument massives. Le pétrole iranien ne coule plus à flot. Et là, il faut manger et se déplacer. Et c'est lorsqu'on doit lever les sanctions, c'est d'abord les sanctions qui empêchent ça, qui doivent être levées. Et puis le deuxième, et ça fait le lien avec le témoignage de Nicolas Hénin, que l'on entendait, c'est extirper la violence de la Syrie. Avec un double traumatisme. Il y a le traumatisme de Bachar, et on a vu encore une fois, il y a quelques jours, l'arrestation des gens qui ont commis des massacres absolument extraordinaires, et puis le traumatisme de l'État islamique. Et ce que montre ce procès, c'est que, au-delà des violences que les témoins ont subies, et dont on disait qu'elles étaient insoutenables, on voyait que c'était une guerre contre les Syriens et pour laquelle la violence n'avait aucune limite. Il y a eu une euphorie post-Bachar. Aujourd'hui, on voit que la situation est fragile et qu'elle est explosive et qu'il faut, je crois, aider la Syrie.
Allez, place au débat du grand face-à-face.
France Inter, Thomas Negaroff. Le grand face-à-face, le débat.
Mais soit on trouve un accord, soit on se retire. Et si on se retire, vous allez vous retrouver tout seul à vous battre. Et je ne crois pas que ça va être très joli. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura trouvé cet accord, vous serez dans une meilleure position. Mais là, vous n'avez pas l'air très reconnaissant. Et ce n'est pas très sympa, je dois être honnête, ce n'est pas très sympa. Voilà, bon, je crois qu'on en a assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? Ça va faire de la bonne télévision, ça. Bien. Nous allons voir ce que nous pouvons faire.
Ça va faire de la bonne télévision. La conclusion hallucinante d'une séquence qui ne l'a pas moins été. 10 minutes de discussion très violente dans le bureau ovale entre Trump, Vance, son vice-président, et Zelensky, sous le regard des journalistes et des diplomates médusés par la violence de l'échange. Un échange qui devait s'achever sur la signature d'un accord sur les minerais ukrainiens, en contrepartie de garanties de sécurité pour l'Ukraine, et qui s'est achevé en réalité sur une porte qui claque et un monde sous le choc. Alors pour donner du sens à ce moment historique, à cette événement, mot important, deux voix puissantes nous ont rejoints. Bonjour Pierre Lévy et bonjour Stéphane Audouin-Rouzeau.
Bonjour.
Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Pierre Lévy, vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Russie entre 2020 et 2024. Et dans une tribune dans le journal Le Monde, vous avez considéré il y a quelques jours qu'une défaite de l'Ukraine, une victoire de la Russie, c'était une défaite des États-Unis. Et la Russie a-t-elle gagné? On vous posera la question. À vos côtés, Stéphane Audouin-Rouzeau, vous êtes l'un de nos grands historiens, spécialiste de la violence, de la Première Guerre mondiale, mais plus largement de la brutalisation de nos sociétés, directeur d'études à l'EHESS. Première question à vous, Stéphane Audouin-Rouzeau, à l'historien. Qu'avez-vous vu hier?
Alors, ce que j'ai vu hier, donc c'est, pour moi, c'était une mise à mort, en fait, politique, hein, du chef de l'État ukrainien, qui est en même temps, d'ailleurs, chef des armées. C'est important de, peut-être, de le noter. Une mise à mort politique, transformée, en fait, en spectacle télévisuel, et consciemment transformée en spectacle télévisuel, comme la dernière phrase, de Trump le dit très, très clairement. De la bonne télévision. Et d'ailleurs, une mise à mort sous une forme très incohérente. On voit bien, évidemment, le propos, mais la mise à mort est le discours de cette mise à mort est très incohérente. Quand on voit le script, quand on regarde le script dans son étendue, on a du mal parfois à comprendre ce que veut dire le président américain, même si on voit le sens général. C'est une sorte d'engueulade de comptoir, en fait, hein, d'une vulgarité, hein, et d'une vulgarité vraiment insultante, mais qui acte, à mon sens, c'est la deuxième chose que j'ai vue, qui acte, en fait, la défaite ukrainienne qui maintenant est certaine, tout le problème étant, je crois, de savoir, au fond, quelles vont en être les modalités.
Pierre Lévy, les propos de Stéphane Audouin-Rouzeau sont très puissants. Une mise à mort en public à la télévision, est-ce que c'est aussi ce que vous avez vu, vous, hier, vous, le diplomate, vous n'avez pas forcément les lunettes de l'historien?
Alors, je partage ce jugement. Hein. C'était en plus extrêmement, extrêmement douloureux de voir cette situation de cet homme qui risque sa peau. Avec un pays dont l'existence est extrêmement incertaine, face dans ce bureau ovale, et manifestement avec Gene Evans, quand on regarde, on reprend le script qui en a rajouté, qui voulait lui faire la peau. Et d'un point de vue plus donc c'est certainement un événement historique, hein, c'est vraiment l'histoire avec sa grande hache, pour reprendre l'expression de Georges Perec, qui était là, qui se déroulait devant nous. Mais au-delà, d'un point de vue plus professionnel, vous avez là un exercice finalement assez classique au départ, avec le tour image, et puis théoriquement, en principe, les caméras quittent la pièce, et puis on se dit ce qu'on a à se dire. Et là, effectivement, parce que Trump est un showman, les caméras sont restées pour une raison que j'ignore. Et puis vous avez vu ensuite comment tout ça a dérapé.
Alors dérapé. Est-ce que la machine diplomatique s'est enrayée, Pierre?
Alors justement, c'est là où j'ai une interrogation, parce qu'on peut se demander si tout ça était un piège, en fait, une exécution programmée, ou bien s'il y a eu des maladresses, par exemple de Zelensky, parce qu'il faut savoir. Il faut savoir prendre Trump. Hein. Moi, j'ai toujours aussi en tête que j'ai souvent utilisé d'ailleurs dans mon travail, cette phrase de Churchill: depuis que j'ai ma statue, je vois les pigeons d'un autre œil. C'est-à-dire, il faut savoir.
On voit bien l'image, ouais.
Voilà, il faut savoir le prendre. Hein.
Ouais.
Mais donc normalement, tout était préparé par les collaborateurs. Hein, voilà, et l'accord cadre était signé. Mais moi, ça m'inspire deux réflexions que je tire vraiment de mon expérience longue, c'est d'abord la relation entre l'homme ou la femme, enfin l'individu et le système. C'est-à-dire, vous avez des systèmes diplomatiques, le Département d'État, le Foreign Office, le Quai d'Orsay, c'est des très belles machines. Hein. J'avais au passage une très belle équipe, une équipe extrêmement valeureuse à Moscou. Et notre travail, c'est de, quand il y a ce type de rencontre, de tout préparer. On fait des notes, voilà ce qu'il va vous dire, voilà ce que vous allez lui dire, voilà ce qu'il faut obtenir.
Oui.
Et puis en bout de chaîne, vous avez un un homme ou une femme qui a ses humeurs, qui a mal dormi, qui s'est engueulé avec son conjoint, son enfant donne des soucis, il est plus ou moins capable de créer de la séduction. Et ça marche, c'est un peu, pour devant vous, historiens des guerres, comme on dit, l'infanterie, c'est l'arme des 300 derniers mètres. Allez, et ben, le diplomate, c'est l'arme aussi des 13 essais. On est là face à face. Bon, ça, c'est ma première réflexion. Et ma deuxième réflexion, c'est que la politique étrangère, fondamentalement, c'est une affaire de passion, de pulsion, la vision qu'on a de son pays dans le monde. Parfois, ça va très loin et c'est très nocif. Et en fait, le boulot des diplomates, c'est de remettre tout ça, de reformater dans des boîtes de cohérence, dans des équations d'intérêt pour ensuite négocier. Et ça, on a vu en live un échec absolument majeur de la diplomatie.
Et on a vu Zelensky ensuite au micro de Fox News, et il a notamment précisé sa position.
Non, je respecte le président et je respecte le peuple américain. Je pense qu'on doit être très ouvert et très honnête. Et je ne suis pas sûr d'avoir fait quelque chose de mal.
Stéphane Audouin-Rouzeau, question peut-être un peu délicate mais que je dois vous poser. Est-ce que Zelensky a été courageux hier dans le bureau ovale ou est-ce qu'il a été fou de tenir tête à Trump ?
Moi, je l'ai trouvé personnellement, bon, mon point de vue, je n'ai qu'un point de vue, bien sûr, en étant là en pleine histoire immédiate, c'est très difficile pour un historien. Hein. Mon pipi, c'est très difficile, hein, je veux bien jouer le jeu. Moi, je l'ai trouvé remarquablement courageux et en même temps, on sentait un désarroi, l'homme était livide, hein, cerné littéralement dans un milieu hostile. Il y avait quelque chose de vraiment... pathétique, mais je voudrais revenir à un moment sur ce que vous disiez, monsieur l'ambassadeur, sur cette question des passions, effectivement, une question qui a intéressé énormément Raymond Aron dans ses analyses de la guerre. Hein, et puis, cette prégnance ici de l'événement, depuis hier soir, vraiment, tous les signes d'un grand événement sont là, y compris notre présence aujourd'hui, oui. À ce micro, les conversations, c'est un événement d'ampleur mondiale. Et puis, le rôle de l'acteur politique, effectivement, dans son imprévisibilité, dans le cas de Trump et d'ailleurs et de son vice-président, on n'est pas ici dans les structures. Hein, on est vraiment dans la force disruptive de l'événement. Il faut savoir le reconnaître. Et reconnaître aussi, la force de sortie du déni d'un tel événement. Alors, de déni, à mon avis, sur deux points.
Allez-y.
Qui me paraissent, si vous me laissez
de
le dire rapidement. D'abord, déni sur la guerre. Hein, on a vécu dans un déni de défaite ukrainienne, à dire vrai, à mon avis, depuis l'échec de la contre-attaque du printemps et de l'été 2023.
Ça avait même commencé sur le déni d'une attaque potentielle de la Russie.
Ah ben, le déni avait commencé.
C'est le déni qui se succède.
Le plus gros moment, le plus beau moment du déni, c'était évidemment avant que la guerre n'éclate,
oui,
quand les chancelleries, les universitaires, les experts, les politiques, les journalistes, ils considéraient qu'il n'était pas possible que la Russie attaque frontalement l'Ukraine avec un raisonnement absurde. Donc, dont on voit maintenant bien l'absurdité, puisque Poutine était un acteur politique rationnel et la décision de guerre serait irrationnelle. Mmh. C'est absurde, c'est là qu'est la faute de raisonnement. Quand un acteur politique est déjà dans le temps de guerre, eh bien, la guerre peut être rationnelle à ses propres yeux.
Et dans quel déni sommes-nous aujourd'hui ?
Et alors là, il me semble qu'on est en train de sortir donc du déni de défaite. Oui. Ukrainienne, ça m'arrache le cœur de le dire, mais je crois qu'il faut le dire, il faut le reconnaître. La question, c'est maintenant comment cette défaite, si je puis dire, va s'organiser, jusqu'où elle va aller, c'est la grande question. Et le deuxième déni, c'est sur le trumpisme. Moi, je pense, et je suis pas le seul à le penser, notamment dans la sphère historienne, que le trumpisme est en fait une variante, une forme, de fascisme américain inédit, et notamment dans une composante absolument essentielle qui est trop peu souvent soulignée et qui sépare le fascisme des autres mouvements d'extrême droite et encore plus évidemment des mouvements conservateurs, c'est sa dimension révolutionnaire. Il y a une dimension révolutionnaire dans le trumpisme qui s'ajoute à sa brutalité native, en quelque sorte, qu'on a vu parfaitement hier, et ici cette dimension révolutionnaire qui s'applique à l'ordre international international comme il s'applique à l'ordre institutionnel américain, à l'ordre social, à l'ordre juridique. Et il faut qu'on l'en prenne maintenant en compte, hein, cette nouveauté absolue. Et c'est toujours très difficile de prendre en compte la nouveauté. Hein, la nouveauté absolue de ce pouvoir donc américain.
Bah, poursuivons sur cette idée qui me semble assez féconde pour dépasser l'événement d'hier et le replacer dans un temps plus long qui serait un temps évoqué par Stéphane Audoin-Rouzeau révolutionnaire. Pierre Lévy, est-ce que vous avez le sentiment qu'on change d'époque, qu'on a changé d'époque, pas forcément hier, mais qu'on est sur un changement d'époque très profond ?
Il y avait des tendances lourdes qui étaient à l'œuvre bien avant l'arrivée de Trump au pouvoir, en particulier sur le retrait progressif des Américains, le transfert du fardeau en matière de défense. Enfin, tout ça a été amorcé par Obama. Mais sans aucun doute, personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi rapide et aussi brutal. Et je pense que c'est vraiment un électrochoc qui nous ouvre les yeux sur ces tendances lourdes, sans même parler des évolutions du monde par ailleurs, avec ses puissances émergentes, avec l'Inde et la Chine aussi, et le Brésil et tant d'autres qui prennent leur place. Je crois qu'il y a une grande question quand on s'occupe de ces enjeux, en tous les cas, qui est récurrente. Est-ce que nous nous sommes trompés ? Parce que je reviens à ce que vous disiez sur le déni. Et dans ces débats, en particulier sur la Russie, on se demande d'abord à quel moment nous nous sommes trompés. Est-ce qu'on s'est trompé en 2014 ? On aurait peut-être. Est-ce qu'on s'est trompé d'abord en 2024 aussi ?
Est-ce qu'on s'est trompé
Je rappelle quand même. Ouais. Parce qu'on dit beaucoup, on n'a pas vu venir et tout. Mais il faut se souvenir à l'époque, tous les experts, et y compris même aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites sur le sujet, montrent que l'analyse globale, la grande tendance était de dire, de toute façon maintenant c'est lancé, on ne s'attendait pas à une guerre de cette ampleur, mais les Ukrainiens vont s'effondrer, le pays va être conquis en un mois ou en deux mois. Ce qui explique d'ailleurs l'hésitation à l'époque pour envoyer des armements, parce qu'on se disait on envoie des armes, mais elles seront dans les mains des Russes quelques semaines après. Alors, est-ce qu'on s'est trompé en 2014 ? Est-ce qu'on s'est trompé en 2008 au moment de la Géorgie ? On n'a pas vu le discours en 2007 de Poutine à la conférence sur la sécurité de Munich ? Est-ce qu'on s'est trompé en 1991 ? Tout ça est bien connu. Vous savez, on a humilié la Russie, on les a pas écoutés. Enfin bon, c'est un discours que l'on connaît. Et là, justement, on a l'occasion, peut-être, de ne pas se tromper. Non, mais parce que là, c'est clair. Non seulement ça serait une victoire, ça serait une défaite pour les États-Unis, mais c'est une défaite pour l'Europe. Et je crois que tout cela aura des effets absolument considérables sur l'avenir de notre Union.
Je suis bien d'accord avec vous.
Je reviens juste sur la notion, on va prolonger cet aspect bien sûr, hein, mais je reviens sur l'idée du déni de la guerre. Vous avez depuis longtemps dit qu'on avait l'impression, vécu dans l'illusion que la guerre était loin de nous. Vous êtes le grand historien de la culture de guerre, donc la culture de guerre était désormais hors de nos radars. Est-ce que le fait qu'on soit dans le déni de la guerre fait qu'aussi on soit dans le déni de ce qu'est la paix ? Je dis cela parce que est-ce qu'on n'a pas un peu oublié que la paix, c'est la paix des vainqueurs ? Vous avez dit tout à l'heure, les Ukrainiens ont perdu la guerre.
Oui, c'est ce déni de guerre est consubstantiel en fait à la construction européenne. Il faut bien le dire. Hein, nous avons cru, pas seulement espéré, mais nous avons cru profondément cru. Et c'est une belle croyance, par certains côtés, que nous avions éradiqué la guerre comme moyen, finalement, de trancher les différends entre États au sein de l'Europe, où la guerre avait tant de fois été utilisée, justement, pour trancher ces différends. C'est l'Europe, tout de même, qui a été le lieu des deux conflits mondiaux, des deux guerres totales du XXe siècle.
Et d'ailleurs, Donald Trump hier a évoqué le risque d'une troisième guerre
absolument,
mondiale.
Absolument, absolument. Ouais. Et donc, nous pensions qu'effectivement, avoir réalisé cette eschatologie, au fond, hein, qui est très ancienne, qui date pas du tout ni de la Première Guerre mondiale, ni de la Deuxième, mais qui date du milieu du 19e siècle et même du 18e siècle, hein, les projets de paix perpétuelle de Kant à la fin du 18e siècle. Donc une très vieille espérance européenne, magnifique par certains côtés, mais dangereuse à mon sens, hein, et que nous avons.
Pourquoi dangereuse ?
Dangereuse parce que elle est basée sur une illusion. Je crois que la guerre est un phénomène politique que nous ne pouvons pas être certains, que nous n'aurions pas dû être certains d'éradiquer comme nous en avons eu la quasi-certitude. Et de mon point de vue, puis vous disiez, quand est-ce qu'on s'est trompé, monsieur l'ambassadeur, moi je pense qu'on s'est trompé en 90-91, personnellement. Pas seulement pas autour de cette idée qu'on avait humilié la Russie, c'est pas exactement ça que je pense. Il me semble que nous avons oublié, quand nous avons déclaré, c'est Reagan qui l'a fait, j'ai gagné la guerre froide, nous avons oublié que les soviétiques devenus les Russes n'ont pas dit de l'autre côté, nous avons perdu la guerre froide. Or, la guerre, c'est une de ses caractéristiques, suppose que vainqueur et vaincu tirent les mêmes leçons de leur affrontement. Les Russes, à mon sens, n'ont pas tiré les mêmes leçons que nous de ce qui s'est passé, de leur effondrement en 90-91. Et du coup, on revient à cette question de la paix voilà. que vous posez. La paix, évidemment, elle est basée sur un rapport de force. Elle n'est pas un état culturel.
Elle n'est pas non plus un état moral.
Non, absolument. Dès que l'on touche à la question de la guerre, il n'y a pas de morale en cause. Il y a des questions de force, hein, de force armée, et bien sûr de résistance, hein, bien sûr des sociétés derrière hein, les forces armées. Et il me semble que la manière dont nous avons conçu la paix, et notamment quand nous avons eu cette illusion que l'on pouvait largement désarmer hein, en Europe, comme nous l'avons fait, comme la France l'a fait, même si elle reste la deuxième armée de l'OTAN, mais elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était, évidemment, avant la fin de la conscription, eh bien nous nous sommes, au fond, liés les mains. Et maintenant, nous le sentons bien, hein, dans cette panique hein, qui gagne hein, et qui est au fond le président de la République lui dit très bien il faut réarmer oui mais en combien de temps et là nous heurtons à une autre question donc on pourrait peut-être se poser c'est celle du temps.
Pierre Lévy, je vous laisse répondre, mais aussi j'aimerais avoir à nouveau vos propos en préparant cet entretien. Vous avez dit à Moscou on sabre le champagne.
Bien évidemment parce que les Russes voient d'abord, non seulement la reprise du dialogue, donc ça c'est l'immense satisfaction de retrouver le monde tel qu'il était avant, entre Washington et Moscou, voilà, nous allons régler les affaires du monde, le monde bipolaire, au bon vieux temps, ça c'est une chose. Je pense qu'ils n'en attendaient pas autant, j'avais souvent dans les moments difficiles de ma carrière, un dicton, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et ça marchait rarement pour moi, j'avoue. Mais là, vous voyez, ils en ont, l'assiette est pleine. Je pense qu'ils n'en attendaient pas autant. Et quand vous regardez maintenant les réactions à Moscou, je pense qu'elles peuvent être, elles sont de trois ordres. Vous avez d'abord les outrances verbales, elles sont les propos de Medvedev, les propos de la porte-parole du MID. Bon, elle est coutumière de ce genre de choses.
C'est des insultes.
Elle a félicité
l'ordure Zelensky.
Voilà, puis elle a félicité Trump et Vance pour être resté calme et pas mis.
Oui, face à l'ordure Zelensky, c'est l'expression.
Voilà. Ouais. Donc c'est
Est-ce que
chose.
Ça c'est du classique russe, voilà, diplomatique.
Oui, c'est du classique. C'est absolument. Sachant qu'après, on a des relations professionnelles avec les diplomates. Mais en tous les cas, c'est très, très outrancier, comme ça, et très, très, très violent. Vous avez deuxièmement la nécessité quand même maintenant pour les Russes d'ajuster leur narratif. Parce que le narratif était fondé sur l'Occident collectif. Il n'y a plus d'Occident collectif, d'ailleurs, hein, puisqu'on est divisé. Et puis les États-Unis étaient le leader de l'empire du mensonge, le leader de l'empire du mal. Comment est-ce qu'ils vont ajuster leur discours par rapport à ça ?
Intéressant.
Et puis troisièmement, je reste convaincu qu'il y a une très très profonde méfiance entre côté de Moscou vis-à-vis de Trump, fondamentalement. Ils se disent, il est totalement imprévisible, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je crois vraiment que la partie n'est pas totalement jouée. Ah bon, mais ça, c'est...
Non, mais allons-y.
Non, n'est pas totalement jouée parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. D'abord, bien évidemment, ce que vont faire les Européens.
Notamment demain à Londres.
Notamment demain à Londres. Il y a un Conseil européen extraordinaire le 6. le 6 mars. Donc là, et je crois encore une fois qu'il faut que nous employions à faire baisser la température entre Zelensky et Washington, et puis que l'on soit crédible. Il ne s'agit pas de sauter sur sa chaise en disant nous voulons une table, une place à la table. Il faut montrer ce que nous sommes capables de mettre sur la table en termes notamment de garantie de sécurité, mais en termes de pression aussi sur la Russie. Et puis je le maintiens, essayer de persuader les Américains toujours que c'est une mauvaise voie. On est avec eux pour trouver une solution très vite, mais que tout ça, c'est la victoire de la Russie, et la Russie ne se privera pas de claironner cette victoire. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, que peut-il se passer en Ukraine maintenant, après tout cela, sentiment de lâchage. Le fait aussi, et ça, je crois que c'est très important à prendre en compte quand on analyse les réactions de Moscou, le fait que, et ça, c'était une terrible surprise, que Trump emploie le discours russe, en fait, pour délégitimer Zelensky, et ça va très très loin, parce qu'on sait très bien que des élections sont impossibles. Il emploie le discours russe à la Maison Blanche en disant « Mais c'est vous qui êtes à l'origine de la Troisième Guerre mondiale ». On a vu le vote aux Nations Unies, quand même, qui était hallucinant, là aussi, avec un projet de résolution mis sur la table, totalement à revers, à rebours de ce qu'on avait écrit.
Et voté par Washington et Moscou.
L'agression russe, mettant les deux protagonistes sur le même niveau. Ça, c'est une immense satisfaction pour Moscou. Mais donc, je crois que le dernier paramètre, ce n'est pas joué, parce que on ne sait pas comment les Russes vont réagir. Moi, je ne vois vraiment pas sur quoi les Russes pourraient transiger. Ils considèrent qu'il est sur une trajectoire de victoire. Ils voudraient aller jusqu'au bout. La question de savoir qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout.
Ils peuvent peut-être aller justement jusqu'au bout. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui m'inquiète peut-être le plus, c'est la possibilité peut-être pour la Russie de refuser finalement ou de mettre de telles conditions à cesser le feu que les Ukrainiens soient obligés de le refuser, attendre que les Américains se retirent vraiment, les laissent tomber comme ils le promettent, et puis là d'être en situation vraiment de briser le front ukrainien et d'infliger ce statocide, hein, comme on dit en sciences politiques, hein, cette liquidation de l'État, ouais. De liquidation de l'État ukrainien. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites, c'est justement cette importance du langage. Hein, c'est l'importance du langage, à quel point le langage, les formes du langage donc sont constitutives, hein, finalement, de la guerre, hein, de ce qui se joue en ce moment en temps de guerre. Et quand j'ai dit en temps de guerre, justement, à propos du temps, pour moi, dans ces 15 derniers jours, la phrase la plus extraordinaire et qui n'a pas été notée peut-être suffisamment est celle du président finlandais juste après Munich. Et c'est une phrase pour historien, c'est pour ça que j'aimerais quand même la dire, où il cite Lénine. Je cite assez peu Lénine, généralement, moi, personnellement, comme historien. Mais là, il faut reconnaître l'intelligence de cette phrase. Il y a des décennies où il ne se passe rien, et des semaines où il se passe des décennies. Mmh. Et c'est ça qui est en train de nous arriver. Et je pense à ce moment-là à Chateaubriand, hein, disant à propos de la Révolution française, hein, le temps n'existait plus, le temps avait péri. Je crois qu'en ce moment, notre temps, le temps des gens de notre génération, notre temps a péri. Notre temps n'existe plus, un nouveau temps est en train de naître, évidemment, et ceci provoque évidemment un trouble général considérable, et en tout cas notre trouble.
La guerre accélère l'histoire, c'est aussi du Lénine. Est-ce que vous considérez que, Pierre Lévy, on arrive déjà, le temps court aussi pour nous au bout de cet entretien qui est passionnant et fascinant par vous deux, et merci infiniment de le faire avec nous. Est-ce que vous considérez que demain, que la paix ratée, si elle est ratée, prépare des conflits de demain?
D'abord,
et l'historien de la Première Guerre mondiale acquiescera, voilà, sûrement, parce que
on a toujours ça en tête. Juste une remarque sur ce concept de narratif. Je crois que nous avons, et vous l'avez très bien dit, nous avons un immense besoin de créer un narratif national sur ce qui se passe. Bon. Deuxièmement, je terminerai sur une pensée qui est beaucoup moins sophistiquée que la vôtre et moins élégante, mais ce qui se passe là me fait plutôt penser à « fichez-moi la paix » plutôt que « je veux faire la paix ». En d'autres termes,
on comprend.
Régler ce truc, maintenant je ne veux plus voir. Et bien évidemment, ce sont les conflits de demain, comme de la même manière nous avons fait certaines choses en 2007, ou pas fait certaines choses en 2007, 2008 ou plus tard, qui nous ont menés à la situation d'aujourd'hui.
Ou en 1918, 19 et 20. Stéphane Audouin-Rouze.
Oui, beaucoup de ressemblances, bien sûr. Hein. Je pense à chaque fois que je vois cet accord de paix qui va être imposé par les Américains et les Russes ensemble à Zelensky. Je pense finalement au diktat hein, de Versailles hein, de juin 19, au désarroi des négociateurs allemands qui cherchent tout de même et avec la catastrophe que cela a représenté plus tard.
Merci beaucoup Pierre Lévy, ancien ambassadeur de France à Moscou. Merci Stéphane Audouin-Rouze, historien. C'était passionnant, je le répète. À samedi prochain pour un nouveau Grand Face à Face.